PowerPoint va s'afficher, vous pouvez ouvrir en attendant l'Épître aux Philippiens, s'il vous plaît. L'Épître aux Philippiens au chapitre 4. Avant de lire Philippiens chapitre 4, je fais un tout petit point de résumé sur ce qu'on a vu la semaine dernière parce qu'il y a un lien, ça s'enchaîne avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on va voir aujourd'hui. On a vu la semaine dernière à quel point c'était important de prier. Alors bien sûr, il y a différentes facettes à la prière, mais notamment cette facette, c'est pas tout le temps ça, on va voir des tas de facettes différentes, tout est merveilleux dans la prière, mais il y en a une spécifique qui est de prier pour se décharger, pour décharger nos âmes, et c'est ce que Pierre nous exhorte à faire, et ce qu'on avait vu, et se déchargez-vous, littéralement, dans l'original, c'est vraiment l'action de jeter sur quelqu'un, rejeter, refuser l'inquiétude, l'action de jeter sur ce qui vient troubler mon cœur, peu importe ce qui vient troubler mon cœur, je le refuse, je le rejette sur le Seigneur, je le jette sur Jésus, parce qu'à la croix, merci Seigneur, il n'a pas seulement pris mes péchés, il n'a pas seulement pris mes maladies, mais il a vraiment tout pris, il a vraiment tout porté, et tout doit être absolument jeté sur lui. De tous vos soucis, dans l'original, la pensée de Pierre, c'est très précis, c'est que chaque souci, chaque inquiétude, n'importe laquelle, c'est-à-dire, là vraiment, l'apôtre Pierre est en train, il n'a pas inventé le concept, mais quelque part, là c'est vraiment la tolérance zéro, mais dans le bon sens du terme, c'est la qualité de mon âme qui est en jeu, la qualité de vie de mon âme, même de mon corps, parce que ce qui ne va pas à l'intérieur peut se répercuter sur le corps aussi, et on a vu ensemble que Dieu veut absolument que mon âme reste libre, qu'elle soit légère, qu'elle soit en repos. L'inquiétude, le souci, la peur, ces choses-là, ces sentiments-là dans la pensée de Dieu, dans la pensée des apôtres, ce n'est pas une façon de vivre. Ça doit rester vraiment ponctuel quand ça arrive. Parce que tout ce qui n'est pas réglé aujourd'hui, chaque petit souci aujourd'hui que je vais laisser avec le temps, peut devenir un gros problème ou un gros fardeau demain. C'est pour ça que les apôtres, c'est pour ça que Dieu lui-même me dit, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu n'es pas appelé à gérer, tu es une brebis, ça je ne l'ai pas dit la semaine dernière, mais frères et sœurs, il faut bien qu'on comprenne toutes les facettes de la brebis. Une brebis n'est pas faite pour porter quoi que ce soit. Ce sont les ânes que l'on charge. Les chevaux, on les charge ou on les monte. Les bœufs, on les charge, on les monte. Les éléphants, on peut charger. Il y a des animaux, vous pouvez charger. Vous avez déjà vu charger une brebis ? Une brebis ne porte jamais rien. Une brebis n'est pas faite pour porter. Une brebis, elle est faite déjà pour écouter, pour aller dans le sens du berger. Et quand elle est fatiguée, merci Seigneur, le berger la prend sur ses épaules, donc la brebis elle est faite pour marcher, éventuellement être portée par moment en attendant qu'elle aille mieux et que le Seigneur la remette sur ses pattes, mais la brebis n'est pas faite pour porter quoi que ce soit. Dans toute l'histoire, on n'a jamais vu, jamais personne n'a eu l'idée de mettre des sacs avec des cailloux sur une brebis, puis lui dire tiens vas-y, va. Non, c'est pas fait pour ça. Et puis, on avait terminé avec la fin de ce verset extraordinaire, parce que lui-même prend soin de vous. Déchargez-vous, jetez sur Jésus chaque souci, la moindre inquiétude, la moindre chose qui commence à vous nouer la gorge, à vous serrer l'estomac, à vous inquiéter, vous le jetez sur Jésus, parce que lui-même prend soin de vous. Et on n'est jamais aussi bien servi que par le Seigneur lui-même. Amen. Ce soir, on voit un autre aspect. Faites connaître vos besoins, et c'est pour ça qu'on va lire Philippiens 4, et en réalité on va voir dans le message que parler de ses besoins au Seigneur, c'est une façon très concrète de se décharger à ses pieds. Alors, Philippiens chapitre 4, on peut prendre les versets 6 et 7, deux versets suffiront amplement pour alimenter la méditation de ce soir. Philippiens 4, verset 6, On est vraiment dans c'est Paul qui écrit, bien sûr, hein, mais on est vraiment dans le même style de pensée que Pierre la semaine dernière. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous même pas du buzz qui est en train de surgir dans mon oreille gauche, je ne sais pas ce que c'est, ça va se régler. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Ici, est-ce que peut-être c'est mieux si peut-être vous voulez que je le coupe ? Parce que j'ai peur que vous l'entendiez plus que moi. Puis j'ai peur qu'à force, ça vous stresse. Et comme vous ne devez être inquiété par rien, je ne voudrais pas que vous repartiez avec un tremblement ce soir. Oh, d'accord. Voilà, on n'a plus d'inquiétude. Voilà. Par contre, on ne l'a pas encore jeté, mais lui, ça ne va peut-être pas tarder. Bon, je continue. Du coup, je garde le micro. J'en ai pas besoin, vous m'entendez, mais c'est pour l'enregistrement. Voilà. En toute chose, vous avez vu, là, c'est le même principe, tolérance zéro, de ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. C'est le même principe ici. Et ça peut vraiment paraître être un drôle d'impératif, parce que c'est vrai que dans la vie, il y a quand même des sujets à différents niveaux qui sont réellement légitimes. On n'exagère pas. Il y a des choses qui sont sérieuses, qui sont graves. L'inquiétude peut avoir une forme légitime. Les jeunes ont des inquiétudes légitimes concernant leur avenir. Les personnes âgées ont des inquiétudes légitimes concernant leur santé. Les quadras ont des inquiétudes légitimes concernant leurs enfants, concernant leur travail. On a des inquiétudes, c'est légitime. Mais l'apôtre Paul est en train de dire, j'ai une chose extrêmement importante à vous dire, peu importe ce qui vous arrive, surtout, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications. Un simple impératif, que ça en est presque agaçant. Et là encore une fois, ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder les textes à la lumière des contextes. Si quelqu'un qui n'a pas de problème me dit « Oh, t'inquiète pas, ça va aller », là, il m'agace. Je me dis, il ne sait pas de quoi il parle. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir eu des vraies, vraies inquiétudes avec ses enfants. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une inquiétude de travail. Tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir une inquiétude au sujet de ton avenir. Quelqu'un qui n'a pas de soucis, qui n'a pas de problème, c'est très facile de dire ne vous inquiétez de rien, faites connaître au Seigneur par la prière. Mais en réalité, qui est en train de m'écrire là ? C'est l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, on sait qu'au moment où il écrit, là, il est dans ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Philippiens, Colossiens. Et on sait très bien que c'est depuis sa prison à Rome qu'il est en train d'écrire « Ne vous inquiétez de rien ». Donc Paul, quand il écrit, vous relirez un petit peu l'épître aux Philippiens. C'est passionnant, on a appelé ça l'épître de la joie. C'est dans le pire qu'il écrit l'épître de la joie. Et en réalité, ici, au chapitre 2, verset 23, pour ceux qui notent, chapitre 2, verset 23, l'apôtre Paul ne sait vraiment pas à quoi va ressembler son lendemain. « J'espère vous envoyer Timothée quand j'apercevrai, dès que j'apercevrai, l'issue de l'état où je me trouve. » Il y a un grand point d'interrogation. Puis en plus, pour Paul, attention, on pourrait dire, ah, allez, premier problème, premier souci, on est un petit peu optimiste, on dit, ah, c'est pas grave, je vais m'en sortir. Non, non, Paul à Damas, les Juifs tentent de le tuer. C'est ce fameux épisode de la corbeille. Il faut qu'il s'échappe avec une corbeille dans les Actes des Apôtres. À Icône, les Juifs, les païens veulent le lapider, il doit encore s'enfuir. À Lystre, cette fois-ci, ils ne l'ont pas raté. Ils l'ont lapidé. À Lystre, ils l'ont lapidé. Jeté en dehors de la ville et laissé pour mort. Il a repris ses esprits, s'est relevé, il y est retourné. à Philippe, là il écrit aux Philippiens, l'Église est constituée, mais quand l'Église a été constituée avec Silas, acte 16, souvenez-vous, on avait prêché sur la puissance de la louange dans nos prisons, à Philippe, il a été aussi battu et emprisonné. À Thessalonique, il a dû s'enfuir. À Bérée, les Juifs ont agité la foule contre lui. À Corinthe, on l'a arrêté, on l'a traîné devant le proconsul romain. Et on sait pertinemment qu'il en a vu, excusez-moi l'expression, mais comme on dit, à juste titre, des vertes et des pas mûres. Et pas des petits problèmes, des choses vraiment importantes. Et là, il est en prison. Ah, mais c'est peut-être que les Philippiens n'ont pas trop de problèmes. Ah non, le contexte dit Philippiens est aussi préoccupant. Ce sont des gens qui, matériellement, les Philippiens, ont peu de moyens. Ce sont des gens très modestes. On apprend ça dans les contextes. Ce sont des gens qui ont malheureusement été maltraités. Ils ont eu affaire à des mauvais ouvriers. Il y a des chiens. Il y a des faux circoncis, des hypocrites qui se sont infiltrés dans le troupeau. Il y a aussi des tentatives de persécution. Il y a des ennemis, ceux qui marchent en ennemis de la croix. À un moment, là, Paul leur dit, si vous avez des adversaires, ben c'est bien la preuve que vous êtes sauvés et qu'ils sont perdus. Ils avaient des adversaires. Il y en a qui prêchent Christ par esprit de dispute pour me susciter des tribulations davantage dans mes liens, dans mon être intérieur, pour me faire mal. Et l'Église est aussi, touchée par tous ces faits. L'Église est aussi menacée d'implosion. Le conflit entre Évodie et Saint-Tiche, c'est pas une petite affaire. Il n'y a pas de problème doctrinal. Paul n'intervient pas sur ce problème-là plus que ça, puisqu'il n'y a pas de problème doctrinal. Mais il y a des problèmes de personnalité. C'est terrible, hein, les personnalités dans les églises, hein. Évodie, elle a combattu pour la foi de l'Évangile, mais elle a une personnalité. Et c'est une personnalité forte. Saint-Tiche, elle a combattu aussi pour la foi de l'Évangile. S'il y avait eu un problème de doctrine, Paul serait intervenu immédiatement. Mais il n'a rien dit parce qu'il n'y a pas de problème de doctrine. Ce sont des caractères, ce sont des problèmes de personnalité. Et le problème avec Évodie et Saint-Tiche, qui sont en opposition à cause de leur caractère, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les brebis, eh ben, elles n'ont pas eu de meilleure idée que de se positionner pour l'une ou pour l'autre. Et c'est comme ça que l'Église, elle est menacée d'implosion, elle est menacée de division. Donc quand Paul leur dit « Ne vous inquiétez de rien », c'est pas qu'il n'a pas de problème, et c'est pas que les Philippiens n'ont pas de menace ou de problème. Ça signifie qu'il y a vraiment quelque chose que je dois comprendre et mettre en œuvre, mettre en pratique. La foi, bien évidemment, bien aimé, n'est absolument pas du déni. Nous ne nions pas, on va le voir tout à l'heure, nous ne minimisons pas les circonstances. Jamais, au grand jamais, la foi ne me permet de minimiser les circonstances. La foi regarde le problème en face, elle appelle le problème par son nom, mais elle va être le canal qui va m'amener à Dieu une solution, une réponse plus grande que le problème. Et c'est ce que va faire la prière de la foi. Ça m'a aussi toujours un petit peu surpris, je vous ai mis ça, je me suis dit, mais pourquoi l'apôtre Paul, c'est un érudit, Paul a été ravi au troisième ciel, il a eu des révélations que personne n'a eues, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a fondé des églises, c'est une référence doctrinale impeccable. Paul sait très bien que Dieu sait toutes choses avant que ça arrive. Faites connaître vos besoins. Tu rigoles, Paul ? Tu crois vraiment que ce que je vais dire, je vais apprendre quelque chose au Seigneur ? Ne sait-il pas d'avance ? Ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, ce n'est pas qu'il est pas seulement qu'il est omniscient, c'est qu'il est prescient. C'est qu'il sait tout d'avance. Il sait ce qui va arriver. Il savait que ça arriverait. Il n'a rien fait pour empêcher que ça arrive. Et Paul me dit, faites connaître vos besoins. David dit dans le psaume 139, Seigneur éternel, la parole n'est encore même pas sur ma langue, tu la connais déjà entièrement. Jésus dit bien lui-même, et n'est-ce pas contradictoire ? Demandez, vous recevrez, priez, cherchez, frappez. Puis en même temps, Jésus dit aussi, c'est dans les Béatitudes, Jésus dit, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont être exaucés. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui ayez demandé. Et Paul me dit, ben faites connaître vos besoins. Faudrait savoir quand même. Et ça, ça fait réellement partie de la pédagogie divine. Dieu est un excellent pédagogue et il y a des raisons, il y a des objectifs. Lorsque Dieu me demande, non pas de lui faire connaître, quand peu importe ce que je dis au Seigneur, on est d'accord, c'est une évidence, vous le savez. Je ne l'informe de rien. Je ne l'informe pas. Mais souvent, je me suis posé la question et j'ai travaillé ça aujourd'hui pour vous. C'est quelque chose qui est important de comprendre la pédagogie de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut absolument que je lui fasse connaître des choses qu'il sait déjà, des choses dont il avait connaissance avant même qu'elles arrivent? Il y a quelques raisons. Il n'y a pas forcément un ordre plus que d'autres, c'est un ensemble de raisons. Il fallait bien que je les liste, mais il n'y a pas forcément d'ordre chronologique, vous avez compris. Les deux premières raisons nous sont directement reliées à la puissance de nos paroles. Le Seigneur nous a dotés de la parole, ce n'est pas pour rien. Et il veut ainsi nous obliger, quand vous lisez les psaumes, vous vous apercevez de ce que les auteurs bibliques ont mis, bien sûr, dans l'ensemble de la Bible, mais dans les psaumes, je trouve toujours que c'est particulièrement, quand mon âme va pas bien, je trouve dans les psaumes une multitude de références pour me bénir. Et je vois des auteurs qui sont passés par des difficultés. Leur âme s'est retrouvée dans des états divers et variés, et je vois qu'ils ont eu le courage de dire tout haut ce que parfois nous pensons tout bas et n'osons pas dire. Et si Dieu veut que je lui parle de tout, dans toute situation, il veut m'obliger à mettre des mots sur des situations. Il veut m'obliger à fuir, il veut plutôt m'empêcher de tomber dans le déni. Le déni, bien-aimé, c'est toujours la première et la plus prévisible de toutes les réactions humaines. Non, c'est pas moi. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai rien. Non, j'ai pas mal. Non, je vais très bien. Le déni. Et la seconde réaction, la plus prévisible de tous, c'est d'atténuer la chose. Oui, c'est vrai que... Mais... Et le Seigneur veut que... Parce que c'est... Comment voulez-vous régler un problème si le problème n'est pas identifié? Je peux essayer de me leurrer, je peux me mentir à moi-même, je peux faire la politique de l'autruche, je me mets la tête dans le sable. Je peux très bien essayer d'eux. Comment vous voulez trouver une solution à un problème? Comment vous voulez que Dieu, à un moment, vous communique la réponse, la solution à quelque chose s'il n'y a pas de difficulté? Donc Dieu veut déjà que j'arrête de pratiquer la politique du déni, la politique de l'autruche, mais que je regarde les choses en face. Chérie, tu vas vraiment pas bien là. Non, ça va, j'ai pas mal. Chérie, mon cœur, tu devrais vraiment... C'est peut-être plus masculin que féminin. Tu devrais vraiment... Chérie, t'es pas bien là. Tu devrais vraiment aller chez le médecin. Non, j'ai pas mal. Pas moi. Moi, j'ai rien, moi. Alors moi, aller chez le médecin? Ah, jamais. Nous sommes les champions du déni. Non, j'ai pas mal. Non, je vais bien. Malade, moi? Non, je suis pas malade. Tout le monde l'a vu, sauf toi. Nous obliger à mettre des mots sur des situations, briser un silence destructeur, parce que tant que on n'a pas mis des mots courageux, c'est courageux, sur des situations, et qu'on n'a pas accepté, une situation, qu'on n'a pas évincé la honte d'avoir un problème, la honte d'être malade, la honte d'être jugé, la honte de, la peur de, du coup... Mais pendant ce temps-là, le problème ne se règle pas. Les choses vont de mal en pis. Donc Dieu me dit, le Dieu qui est parole, me dit, je veux que tu me parles de tout. Et quand on réfléchit bien, frères et sœurs, il y a des sujets pour lesquels je ne sais pas pourquoi. Hein, c'est différent pour vous, de moi, c'est différent des uns des autres. Il y a des sujets pour lesquels on n'a pas de problème. Pour dire au Seigneur, ah Seigneur, voilà, il y a ça, il y a de moi. Et puis sur certains sujets, je dis, mais au fait, t'as prié pour ça ? Non, mais en fait, c'est pas si grave. Pourquoi t'as du mal ? Pourquoi t'as prié pour ça ? T'as du mal à prier pour ça. Le Seigneur nous oblige à mettre des mots sur des situations. Il ne faut pas oublier la puissance de nos paroles. C'est là que je fais le lien avec la semaine dernière, frères et sœurs. Si Dieu nous a dotés de la parole, ce n'est pas pour rien. C'est un moyen pratique de se décharger. Vous regardez n'importe quel psychologue, psychanalyste, psychiatre, psychothérapeute, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont les médecins, ils ne règlent pas tout, hein, de la même façon que les médecins pour le corps font ce qu'ils peuvent, mais ils ne règlent pas tout. Les médecins de l'âme, psouché en grec, psyché, psycho, soin de l'être intérieur, tous ces gens-là font ce qu'ils peuvent, mais l'âme humaine est tellement profonde, et c'est un labyrinthe, elle a tellement été corrompue aussi par la puissance du péché, par les blessures, qu'elle a tellement de profondeur qu'aucun psy, même s'il fait quelque chose de louable et de sérieux, aucun psy ne peut atteindre les profondeurs de l'âme et voir ce qui s'y passe exactement. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut amener, nous en, aller au front, au plus profond, au très fond de notre âme. Mais par contre, ça c'est une chose, mais par contre ce qu'un n'importe quel psy peut faire, ce qu'ils font tous, c'est de faire parler les gens. Parce qu'ils savent très bien que la parole est libératrice. Parler, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, soit de dire ça à quelqu'un, soit que quelqu'un vous dise, parce que vous vous êtes assis, parce que vous ne l'avez pas jugé, parce que vous l'avez écouté, vous avez été attentif. Ah, vous n'aviez pas de réponse, c'était trop pour vous, vous n'êtes pas Dieu. Vous n'avez pas de solution. Mais peut-être des gens vous ont dit un jour, je te remercie, merci de m'avoir écouté. Et le fait de laisser aux gens la possibilité de parler, de s'exprimer, ça libère quelque chose à l'intérieur. Le Seigneur nous a donné la parole et c'est par la parole que des choses réellement dans nos âmes peuvent se libérer. Ça passe, nos âmes se déchargent, ça peut se faire par la parole. Ça peut se faire par les larmes. Le Seigneur nous a créés ainsi pour que là, quelque chose à l'intérieur, la pression intérieure sorte et que nous puissions passer de l'inquiétude à la paix de Dieu. Il y a une mesure ici pédagogique de Dieu. Il nous a créés ainsi pour que nous apprenions de façon pratique par la parole et même parfois par les larmes à nous décharger. Et puis, il y a aussi cette facette, cet aspect où nous sommes amenés, vous savez, quand on prie, j'en reparlerai dans d'autres facettes de la prière, il y a une forme de capitulation. Prier, c'est baisser la garde. Prier, c'est abandonner les armes. Prier, c'est capituler devant Dieu. C'est un moyen de reconnaître notre insuffisance et notre incapacité. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur veut absolument qu'on lui parle de tout, parce que c'est une façon, une fois qu'on a regardé le problème en face, on arrivera bien sûr à la dimension de la foi qui va amener la véritable réponse, mais d'abord, il va falloir enlever le blocage. Et là, il y a une forme de brisement de notre ego,
une forme de brisement de notre fierté, parce que c'est humain, je vous l'avais dit dans un autre message, nous sommes faits ainsi, bien-aimés, c'est notre nature. Nous sommes des maniaques du contrôle. Consciemment ou inconsciemment, nous avons besoin de tout comprendre, de tout tenir, de tout contrôler, de tout gérer et de tout décider. Et là, le Seigneur qui me dit, fais-moi connaître ton besoin, tu me le remets, mais là, à ce moment-là, moi, je me retrouve en train d'accepter. C'est une façon de dire, Seigneur, si je t'en parle implicitement, c'est parce que je reconnais que je ne suis pas capable. Je suis insuffisant. La première chose que Adam a essayé de faire avec Ève après avoir péché, c'est d'essayer de gérer le truc par eux-mêmes. Ils se sont cousus des feuilles. La première chose que les disciples ont essayé de faire dans leur adversité, dans leur tempête, la tempête est un synonyme d'adversité dans la Bible, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est de gérer la tempête par eux-mêmes. Et c'est seulement quand ils n'y arrivaient pas qu'ils ont été réveillés Jésus pour que lui gère le truc. C'est une façon de reconnaître, et c'est pour ça que par moments, bien-aimés, ça me donne déjà un élément de réponse à la question « Pourquoi est-ce que des fois, j'ai quand même du mal à prier ?» Parce que quand je prie, il y a des choses à l'intérieur de mon cœur qui doivent se briser. Reconnaître notre insuffisance, notre incapacité. Parce que mon ego peut faire obstacle à la solution, à la réponse que Dieu veut m'apporter. Et prier, c'est aussi un moyen de capituler devant Dieu, reconnaître que je ne peux pas. Josaphat, 2 Chroniques 20, dit à Dieu, « Seigneur, tu vois cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Nous sommes sans force devant cette multitude, mais nos yeux sont sur toi. » Et il a reconnu, bien qu'il soit roi, bien qu'il avait une armée, bien qu'il avait de l'expérience, bien qu'il avait tellement de choses, il a reconnu, « Seigneur, je ne peux pas, je suis sans force, mais toi, Seigneur, je sais que tu peux, mes yeux sont sur toi. » Et ainsi, le Seigneur nous amène aussi à reconnaître, ça peut être humiliant, que nous sommes dépassés par des situations. Cette montagne est trop haute pour moi, Seigneur, cette situation peut être trop difficile. Je ne peux pas la gérer par moi-même. Seigneur, c'est à toi de la gérer. Et puis, je veux terminer avec ce point aussi, bien-aimé. Bien sûr, c'est déjà le fait de parler à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il veut que je lui en parle ? Parce que c'est déjà un premier moyen concret de manifester sa confiance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je ne parle pas de mes besoins à des gens en qui je n'ai pas confiance. Il y a des gens, c'est pas qu'on les aime pas. Il faut surtout pas leur dire de quoi on a besoin. Si le Seigneur me dit « parle-moi de tout », c'est parce que ça va être le premier élément pour amener de la confiance. C'est une preuve de confiance. Seigneur, si je t'en parle, c'est parce que je te fais confiance. C'est parce que j'ai plus confiance, fidèle, foi dans les originaux. Confiance, foi, c'est la même chose. Seigneur, c'est parce que j'ai beaucoup plus confiance dans tes solutions que dans les miennes. Seigneur, j'ai beaucoup plus foi dans tes réponses, dans ce que tu vas faire toi, que dans ce que moi, je pense pouvoir faire dans telle ou telle situation. Donc déjà, c'est une façon de manifester notre foi. Et puis ensuite, nous apprenons aussi la dépendance de la foi, c'est-à-dire qu'il y a un manque, il y a un vide, il y a un besoin. Le besoin peut être extrêmement important, le besoin peut être même extrêmement urgent, il peut être extrêmement oppressant. Lorsque Jésus est dans le désert, la faim est là au bout de 40 jours. Et c'est dans un moment de manque. Il y a le vide, il y a le manque. Jésus a faim. C'est là que le diable vient, Matthieu chapitre 4, Marc chapitre 1er, Luc chapitre 4. C'est là que le diable vient et qu'il lui dit, puisque tu es Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il ne lui a pas dit, si tu es le Fils de Dieu au sens, si jamais tu l'es. Non, non. Si au sens de « puisque », le diable sait très bien que Jésus est là, il sait très bien à qui il a affaire. Et la pensée du texte, c'est « puisque tu es le Fils de Dieu, puisque tu es Dieu toi-même de toute éternité, ordonne que ces pierres deviennent du pain ». et il veut pousser Jésus à sortir de cette dépendance bénie de la foi, lui qui a renoncé à ses droits, à ses prérogatives, à sa place dans le ciel. Il a renoncé à tout, il a renoncé à lui-même, il est venu comme un simple homme et il s'est mis sous l'autorité du Père et de l'Esprit pour se laisser parfaitement conduire. Jésus est le modèle parfait de ce qu'on appelle la dépendance, l'obéissance de la foi. Et le diable cherche à le faire sortir de cette dépendance bénie et le diable lui propose en quelque sorte, mais puisque tu es Dieu, pourquoi est-ce que tu attends que le Père fait ton propre miracle? Et Jésus refuse, répond par la parole, vous connaissez tout ça, parce que c'est vraiment pour Jésus une façon de démontrer la dépendance de la foi. Jésus va rester parfaitement soumis, dépendant. Et moi, je fais connaître mon besoin à Dieu. Pardonnez-moi, j'ai peut-être pas vous, mais moi, combien de fois je me suis surpris, non seulement à parler d'un besoin à Dieu, mais en même temps, je lui ai bien dit ce qu'il devait faire et comment il devait le faire.
Eh oui.
Déposer son besoin, c'est réellement accepter d'entrer dans une dépendance de la foi. Et ça, c'est un apprentissage. Seigneur, je ne sais pas quand tu vas agir. Prier, bien-aimé, c'est aussi accepter son temps à lui. Prier, c'est aussi accepter sa solution à lui. Seigneur, je le remets entre tes mains. Je m'en décharge et j'ai pas à te dire ce que tu dois faire. Ni quand, ni comment, ni avec qui. Seigneur, je me décharge. Ça devient ton problème et ce n'est plus le mien. Et en réalité, ici, c'est pour ça que je vous ai mis apprendre la dépendance de la foi. Nous ne faisons pas connaître à Dieu ce qu'il a à faire ou comment il doit le faire, mais nous acceptons son timing, son agenda, son temps et sa façon d'agir. Parce que si Dieu fait ce que je lui demande, qui est Dieu dans l'histoire? Eh oui, et bien que Dieu ait une compassion extraordinaire pour chacun de mes besoins, et qu'en tant que Père, il a déjà prévu la réponse, et qu'il... je vous choque peut-être, mais excusez-moi de dire que si Dieu a compassion pour mes besoins, Dieu n'est pas aux ordres de mes besoins. Dieu ne me doit strictement rien, ni maintenant, ni jamais, ni de près, ni de loin. Tout est grâce, tout est par pure compassion. Et il faut absolument que moi, je sois bien à ma place et lui bien à la sienne. Donc Seigneur, ben, ce besoin, je te le remets et j'accepte cette dépendance de foi. Comment vas-tu agir? De la première à la dernière page, Dieu agit toujours en réponse à la foi. Il fait toujours des choses extraordinaires. Tout ce qu'il fait est parfait. L'Ecclésiaste dit « en son temps ». Ce que Dieu fait est parfait. Mais, quand le fait-il? Comment le fait-il? Vous regardez les évangiles, Jésus a agi, guéri, pourvu, exaucé, consolé, comblé, il a nourri, il a fait une multitude de choses, toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Regardez bien, Jésus n'a jamais fait deux fois de la même façon. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il ne veut surtout pas que je m'attache à une forme, à une méthode, à une stratégie, à un truc, à une... Il veut que je m'attache à lui. Seigneur, je m'en remets à toi. Et prier, je termine avec ça. Prier, eh ben oui, c'est aussi une façon à un moment d'accepter de lâcher prise. Et j'aime beaucoup ce simple verset, je vous ai mis ici, hein, pardon si je gêne, psaume 81, verset 7. J'aime beaucoup cette phrase. J'ai déchargé, dit Dieu, j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille.
Seigneur, tu sais, tu vois, ça fait des années... C'est toi le Seigneur.
Enfin, c'est toi.
Ça fait des années que ça dure, j'en peux plus, je suis fatigué. Tous les dimanches, je dépose ce fardeau à tes pieds, je t'en parle dans la prière. Et puis là, il y a ça, et je suis fatigué, il y a encore ça. Je te parle de ça. S'il te plaît, prends-moi ce fardeau et vraiment, je te le remets parce que je crois que tu es Dieu et je pense vraiment que toi seul peux agir. Je crois en tes solutions, je crois en tes réponses, Seigneur. Je te remets ça et... S'il te plaît, Seigneur, amen. Non, s'il te plaît, vraiment, je t'ai demandé, j'y croyais vraiment. Je te dis, il faut vraiment que tu me prennes ce pardon, s'il te plaît. Seigneur, ça fait des années que je t'en parle. Fais quelque chose, Seigneur. Prends-moi ce fardeau, je ne peux plus vivre avec ça. Prends-le, s'il te plaît. Vous allez vous en souvenir? J'ai déchargé, dit Dieu, j'ai déchargé son épaule du fardeau, mais tes mains, mais ses mains, celui qui était chargé, mais ses mains ont lâché la corbeille. C'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est tellement difficile à mettre en pratique. Souvent bien aimé. Pardon, Pierre.
Ça peut paraître simple ce que je vais vous dire, je sais que ça peut même paraître bête, mais très souvent, combien de fois en vérité, on a dit et redit au Seigneur les mêmes choses et on était toujours chargé. On arrive dans un moment avec Dieu, une réunion, un culte, la prière, votre moment à vous, votre temps, votre culte familial, peu importe, vous êtes arrivé, il y avait quelque chose, vous l'avez dit au Seigneur et vous en avez parlé et c'est pas la première fois que vous lui en parlez. Et malheureusement, ça a été un peu mieux, mais combien de fois c'est revenu sur vous? C'est peut-être revenu aussi vite que c'était parti. Et puis, on est sorti de la réunion, on est sorti de notre moment avec Dieu, avec les mêmes choses sur nous. Ça s'apprend. C'est pas simple du tout. Mais mon bien-aimé, il va vraiment falloir, je sais pas ce que tu tiens, mais il va vraiment falloir que tu lâches prise. Lâcher prise. Lâcher prise. Lâche ça. Tu le remets à Dieu parce qu'il veut t'empêcher de tomber dans le déni. Il veut que tu identifies le véritable besoin. Il veut aussi, de façon pratique, t'amener à te décharger. Et il t'y aide, il décharge aussi lui-même. Ton épaule, il t'accompagne dans ce moment où tu te décharges. Et il t'amène à reconnaître ton insuffisance, ton incapacité. Ça te fait du bien, ça te remet à ses pieds. Et puis, il t'apprend aussi cette dépendance de la foi. Mais dans la foi, Seigneur, j'ai confiance. C'est pour ça que mes mains veulent lâcher, tout lâcher. Seigneur, j'ai confiance sur la façon dont tu vas procéder. Et aussi, j'ai confiance sur le temps dans lequel, le quand et le comment, tu vas agir. Amen. On se recueille. On prie ensemble. On a encore un moment de prière ensemble.